Les informations avec Hélène Fromanti. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Il se dit soulagé politiquement et personnellement. François de Rugy a officiellement remis ce midi les clés du ministère de la Transition écologique à Elisabeth Borne, 24 heures à peine après sa démission du gouvernement. Retour sur cette passation de pouvoir avec Rosalie Lafarge en tout début de journal. À la une ce soir également, la Cour de cassation donne raison à l'exécutif sur le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif. Ces dernières sont bel et bien légales, selon la haute juridiction. Aux États-Unis, fin de partie pour El Chapo, le narcotrafiquant mexicain est condamné à la prison à perpétuité. Nous serons en direct avec notre correspondant sur place et nous reviendrons sur cette attaque à Erbil au Kurdistan irakien. Un diplomate turc est décédé. Ankara promet de riposter. On ne pensait pas revivre cette scène aussi rapidement. Un peu moins d'un an après le départ surprise de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique, nouvelle passation de pouvoir ce midi sur le perron de l'hôtel de Roquelaure. D'un côté, François de Rugy, ministre déchu à l'image écornée par les récentes révélations sur son train de vie. De l'autre, sa remplaçante Elisabeth Borne qui sera désormais en charge de l'écologie et donc toujours des transports. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Cette passation de pouvoir fait donc suite à un mini remaniement express. Et la cérémonie aura été moins empreinte d'émotion que ne l'a été celle entre Nicolas Hulot et François de Rugy.
Oui, Nicolas Hulot partait déçu, mais volontairement, et c'est toute la différence.
Vous passez le témoin, et pour moi, un double soulagement. Un soulagement politique d'abord, parce que je sais votre compétence. Il est aussi un soulagement plus personnel.
François de Rugy ne s'épanchera pas sur les difficultés engendrées par les révélations en cascade pour lui d'abord, mais également pour sa femme à ses côtés sur le perron. L'ex-ministre préfère dresser son bilan, espérant qu'on se souvienne plus de son action que des homards.
Je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener une politique de progrès écologique.
Et des actes, il y en a eu, tient à souligner sa remplaçante Elisabeth Borne.
Beaucoup a été fait depuis 2 ans. Beaucoup reste à faire. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Ceux qui me connaissent savent que cela ne me fait pas peur.
Elisabeth Borne, qui à peine le témoin récupéré a filé au Sénat pour l'examen du projet de loi énergie-climat, la toute nouvelle ministre accueillie par un premier appel à l'ordre. Pascal Savoldelli, sénateur communiste, l'a interpellé sur sa gestion du train Perpignan-Rungis qui circule à vide. Une situation, a-t-il dénoncé, économiquement absurde et écologiquement irresponsable.
Et avec le départ de François de Rugy, le gouvernement compte désormais plus de femmes que d'hommes. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Les dossiers, eux, n'attendent pas Elisabeth Borne. Elle était dans le grand bain dès cet après-midi, précisément au Sénat pour défendre la loi énergie-climat. Et ce matin, c'était son premier conseil des ministres en tant que ministre de la Transition écologique. Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, Emmanuel Macron a salué, je cite, le sens des responsabilités de François de Rugy. Le président de la République en a aussi profité pour faire passer un petit avertissement à ses troupes, comme le raconte à l'issue du conseil la porte-parole du gouvernement.
Le président de la République, comme le Premier ministre, ont souhaité rappeler l'importance que revêt le respect scrupuleux et strict de la séparation des activités publiques, des activités plus privées. Et donc, ils ont invité les ministres à être extrêmement précautionneux et attentionnés vis-à-vis de cette séparation. Il y a souvent des habitudes qui se sont installées dans des ministères. Et donc, il convient à chacun d'être en permanence vigilant pour ne pas en quelque sorte se laisser couler dans des pratiques qui ne sont pas forcément des pratiques qu'on recommande aujourd'hui.
Par ailleurs, un service de Matignon diligente en ce moment une enquête sur François de Rugy et sur les travaux entrepris dans son logement de fonction ministérielle. Ce service devrait publier ses résultats dans les prochains jours. Le vote sur le CETA qui devait se tenir ce soir à l'issue des débats à l'Assemblée nationale est finalement reporté à mardi prochain. Les députés ont bien examiné cet après-midi le projet de loi de ratification sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Mais les élus de l'opposition ont demandé un report pour éviter un vote tard cette nuit. C'est l'une des mesures phares des ordonnances travail portées par Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. La Cour de cassation a validé ce dispositif dans un avis rendu public cet après-midi. Un simple avis donc, mais une victoire quand même pour le gouvernement et les défenseurs de ce barème. Ces derniers mois, plusieurs conseils de prud'hommes ont refusé d'appliquer ce plafond et deux d'entre eux, Toulouse et Louviers, ont ainsi saisi la plus haute juridiction. Catherine Pétillon, vous nous avez rejoint précisément. Dites-nous, que contient cet avis de la Cour de cassation ?
Eh bien, il dit que le plafonnement des indemnités prud'homales est bien conforme aux traités internationaux et plus précisément avec la Convention de l'Organisation internationale du travail, laquelle demande le versement d'une indemnité adéquate en cas de licenciement abusif. C'était l'un des principaux arguments des opposants au barème. Ils jugent qu'ils n'ont plus la main pour décider d'une juste réparation, puisque les indemnités sont désormais plafonnées entre 1 et 20 mois de salaire selon l'ancienneté. Pour la Cour de cassation, le terme « adéquat » doit être compris, je cite, comme « réservant aux États une marge d'appréciation », marge qu'a utilisé le gouvernement en instaurant ce barème obligatoire. L'avis estime aussi que la Charte sociale européenne, autre texte convoqué par les opposants, n'a pas d'effet direct en droit interne. Il prend donc une position très claire, une très bonne nouvelle pour l'emploi, a salué la ministre du Travail, pour qui moins de recours aux prud'hommes, c'est, je cite, un marché du travail plus fluide et plus constructif. De quoi réjouir aussi le patronat, le bon sens l'emporte, s'est félicité la Confédération des PME. La clarification apportée aujourd'hui était attendue par les entreprises, le doute est levé dans l'intérêt de tous, a réagi le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Même si ce n'est pas si simple en réalité, l'étape d'aujourd'hui n'épuise pas la question. D'abord parce qu'il ne s'agit que d'un avis et non pas d'une décision contraignante. Autrement dit, les juridictions pourront toujours continuer à écarter le barème. Ensuite, parce que FO et la CGT ont intenté des actions au niveau international devant le Comité européen des droits sociaux et le Bureau international du travail. Et la France pourrait bien y être condamnée. De quoi relancer le débat juridique autour de ce barème.
Merci Catherine Pétillon. Des milliers de manifestants, 36 journées d'action et en bout de course plusieurs millions d'euros de pertes financières. Les parlementaires ont rendu leur rapport sur l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes, entamé au mois de novembre. Pour faire les comptes, les élus se sont rendus à Bordeaux, Rouen et Toulouse, trois villes les plus touchées. Et la facture est salée, 2 milliards d'euros pour les centres commerciaux, 850 millions pour l'hôtellerie-restauration. Mais ce sont les commerçants du centre-ville qui sont peut-être les plus durement touchés, jusqu'à moins 30% de chiffre d'affaires les samedis. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir.
Au-delà de ces chiffres, le rapport des parlementaires pointe également des défaillances du côté des assurances.
Oui, les assureurs ont déjà remboursé 217 millions d'euros, mais ce montant serait largement minoré selon les conclusions de la mission, car les compagnies ne montrent pas toujours de bonne volonté pour effectuer les paiements, selon Roland Lescure, député En Marche et rapporteur de la mission.
Les assureurs ont fait une partie de leur travail. Vous avez un coût direct parce que votre vitrine est brisée. Globalement, vous arrivez à vous faire rembourser. Ce qui fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle l'assurance contre les pertes d'exploitation. Si vous perdez du chiffre d'affaires, vous êtes assuré contre les pertes d'exploitation, ben ça prend des semaines, des mois, ça ne fonctionne pas. Il faut donc que les assureurs repensent leur modèle de manière à avoir quelque chose qui marche.
Pour cela, les parlementaires veulent inciter les commerçants concernés à se manifester pour faire remonter chaque dossier problématique à Bercy et aux compagnies d'assurance.
C'est pas le rôle de la représentation nationale en général de traiter des cas particuliers, mais nous, on a rencontré des gens qui ont du mal à se faire rembourser par leur assureur, et je peux vous dire qu'on a vu leur commerce très fortement endommagé. Et donc, on va se rapprocher à la fois de Bercy, la Direction Générale des Entreprises, et la Fédération Française des Assurances pour que sur ces cas particuliers, on puisse accélérer le mouvement. On a pris un certain nombre de contacts déjà avec des gens qui nous en ont parlé. On va donner leurs cas particuliers à Bercy et aux assurances. Et on a évidemment un contact avec les autorités locales qu'on a engagées à Rouen, Toulouse et Bordeaux. Et on va continuer ce travail.
Un travail qui n'aura aucun impact sur le montant des primes d'assurance. C'est en tout cas ce que nous promettent les rapporteurs de la mission.
Lisa Guyenne pour France Culture. Depuis la fin du règne du Colombien Pablo Escobar, il était devenu le narcotrafiquant le plus puissant. Joaquin Guzman, plus connu sous le nom d'El Chapo, est condamné à finir ses jours en prison. Loïc Loury, vous êtes en direct de New York pour France Culture.
Bonsoir.
Le Mexicain avait déjà été reconnu coupable d'avoir fait rentrer aux États-Unis des tonnes de cocaïne. Mais la sentence de la justice américaine est donc tombée cet après-midi.
Oui, et pas de surprise, hein, ce sera la prison à vie assortie de 30 années supplémentaires. El Chapo, le courteau, devrait finir sa vie derrière les barreaux. Il faut dire qu'il avait été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation après 3 mois de procès hors norme ici à New York. Ces audiences avaient permis de plonger dans ce cartel de Sinaloa que Joaquin Guzman a dirigé pendant 25 ans. Quelques chiffres pour en prendre la mesure. Plus de 1000 tonnes de drogue expédiées aux États-Unis, au moins 26 assassinats commandités, mais certainement beaucoup plus. D'El Chapo, on connaissait le masque du Robin des Bois, la légende de ses évasions spectaculaires, mais il était surtout un criminel qui distribuait les pots de vin et torturait lui-même ses ennemis. Joaquin Guzman, malgré tout, critique aujourd'hui son procès. Justice, dit-il, n'a pas été rendue. Il a dénoncé ses conditions de détention et assure qu'il ferait appel. C'est la première fois qu'il s'exprimait en public depuis son extradition vers les États-Unis. En attendant, à 62 ans, il est affaibli par ses conditions d'emprisonnement. Il est vrai particulièrement dur et cela ne devrait pas beaucoup changer, puisqu'il doit désormais prendre la route de Florence, Colorado, une cellule de béton et d'acier située dans cette prison de très haute sécurité et décrite comme l'Alcatraz des Rocheuses.
Loïc Laurie en direct de New York pour France Culture. Le coupable n'a pas encore été identifié, mais Ankara promet déjà des représailles. Le vice-consul turc est mort cet après-midi dans une attaque à Erbil, au nord de l'Irak. Un homme tombé en martyr, selon le ministère turc des Affaires étrangères. L'attaque n'a pas encore été revendiqué, mais de lourds soupçons pèsent déjà sur les rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Les précisions à Erbil de Noé Pignède.
Il est un peu plus de 14h30 lorsqu'un homme armé surgit dans un restaurant chic d'Erbil. Des diplomates turcs sont en train d'y déjeuner. L'assaillant ouvre le feu et tue le vice-consul de Turquie ainsi qu'un civil de nationalité irakienne. Selon un témoin, l'assaillant prend ensuite la fuite à bord d'une voiture qui l'attendait à l'extérieur. Le tireur et ses complices sont toujours activement recherchés par les services de sécurité du Kurdistan irakien. La ville a été entièrement bouclée. Si l'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, tous les regards se tournent désormais vers le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, car les séparatistes en guerre contre Ankara depuis près de 40 ans sont en ce moment la cible d'une large offensive dans les montagnes du nord de l'Irak où ils sont réfugiés. Dimanche, les guérilleros annonçaient la mort d'un de leurs responsables historiques, tué dans les bombardements de l'armée turque. L'attaque de cet après-midi ressemble donc pour beaucoup d'observateurs à des représailles. Sur Twitter, le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan promet de son côté que les auteurs de la fusillade seront poursuivis, sans pour l'instant désigner de coupables. Depuis le début de l'insurrection du PKK dans les années 80, 40 000 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre l'armée turque et les insurgés.
Les pratiques commerciales d'Amazon, de nouveau dans le viseur de l'Union européenne. La Commission ouvre une enquête approfondie sur le géant américain du commerce en ligne, soupçonné d'enfreindre les règles européennes de la concurrence. Amazon aurait notamment utilisé les données des détaillants indépendants qui vendent sur son site internet. Dans un communiqué, l'entreprise américaine assure qu'elle va pleinement coopérer avec l'UE dans ce dossier. Comme chaque jour cette semaine, on retrouve Arnaud Laporte au Festival d'Avignon. Ce soir, Arnaud, vous nous proposez un retour au classique.
En effet, l'un des grands succès de cette édition 2019 s'intitule « Phèdre ». Mais c'était un piège car il ne s'agit pas de la pièce de Jean Racine, quoique, j'y reviendrai, mais « Phèdre », point d'exclamation de François Gremaud. Il est, je crois, impossible d'obtenir des places pour ce spectacle qui se joue donc à guichet fermé dans l'auditorium de la collection Lambert. Mais sachez d'ores et déjà que ce Phèdre, point d'exclamation, sera en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de juin. De quoi s'agit-il ? Le comédien Romain Darol monte sur scène, nous dit qu'il s'appelle Romain Darol et qu'il va nous parler de Phèdre, non pas Phèdre de Racine, mais Phèdre, point d'exclamation, un texte de François Gremaud que met en scène le comédien Romain Darol qui monte sur scène pour parler de Phèdre, non pas Phèdre de Racine, mais Phèdre, point d'exclamation. Je pense que vous avez compris qu'on est parti pour un voyage en loufoquerie avec force jeu de mots, volontairement assez énorme et dit avec une jovialité communicative par ce comédien. Mais l'air de rien, Phèdre, point d'exclamation, nous donne un formidable et très rapide cours de généalogie mythologique, nous parle de la naissance de la tragédie en Grèce antique ou nous explique les ressorts formels des Alexandrins. Mais en plus, au bout d'une demi-heure de spectacle, Romain Darol va commencer à nous résumer la pièce, jouant lui-même tous les rôles, résumant parfois l'intrigue, mais nous donnant aussi à entendre de longs extraits des vers de Racine. C'est intelligent, drôle, fait avec autant de sérieux que de légèreté. C'est un spectacle qui réjouira aussi bien les amoureux de théâtre que les néophytes, les plus jeunes, les plus âgés. C'est un spectacle qui s'adresse à tous avec une folle générosité. Le succès de ce Phèdre, point d'exclamation, est plus que mérité et confirme la belle forme de la sélection suisse dans ce festival d'Avignon. À demain pour une traversée du miroir, je ne vous en dis pas plus.
À demain Arnaud Laporte. Un mot de météo pour demain. La journée s'annonce plutôt belle malgré quelques pluies le matin de la Bretagne aux Hauts-de-France et un temps très nuageux dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, des averses orageuses sont quand même à craindre dans les Pyrénées, les Alpes du Sud et la Corse. Du côté des températures, il fera 11 à 23 degrés en matinée, 20 à 34 en deuxième partie de journée.